Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa, les Allemands envahissent l'Union soviétique. L'attaque nazie contre l'Union soviétique, malgré le pacte conclu le 23 août 1939, est une surprise totale, un choc pour Joseph Staline. Pourtant, les preuves des intentions hitlériennes ne manquent pas. L'espion Richard Sorge, officiellement correspondant de plusieurs journaux allemands, en réalité agent soviétique, transmet des messages précis au Kremlin. Le dimanche 22 juin 1941, l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou, le comte Friedrich Werner von der Schulenburg, reçoit à 3h du matin une dépêche en provenance de Berlin. Elle commence par la mention « très urgent, secret d'État à remettre à l'ambassadeur en main propre ». Elle se poursuit ainsi « au reçu du présent télégramme, procédez à la destruction des documents du chiffre, les installations radio sont à mettre hors d'usage, veuillez immédiatement informer Herr Molotov que vous avez une communication urgente à lui transmettre, qu'en conséquence, vous seriez heureux de le voir sur le champ ». À 5h30, accompagné de Gustav Hilger, son second secrétaire, il pénètre dans le bureau de Vyacheslav Molotov au Kremlin. Les traits tirés, visiblement fatigués, Mossad, le ministre soviétique des Affaires étrangères, les invite à prendre place à une longue table recouverte d'un tapis vert. L'ambassadeur d'Allemagne tire de sa poche le texte du message transmis par Berlin et se met à le lire. En ce moment même, le ministre allemand des Affaires étrangères est en train de remettre à l'ambassadeur soviétique à Berlin un mémorandum. Incapable de se contenir, Molotov l'interrompt. « Depuis 3 heures, nous subissons des bombardements massifs. » Schulenburg lève la tête et d'un ton monocorde poursuit sa lecture. Au bout d'une dizaine de minutes, il arrive à la conclusion. De ce fait, le gouvernement soviétique a rompu les traités existants et s'apprête à frapper l'Allemagne dans le dos alors que celle-ci se trouve engagée dans une lutte à mort. En conséquence, le Führer a donné l'ordre aux forces armées allemandes de s'opposer à cette menace par tous les moyens dont elles disposent. L'espace de quelques instants, le silence est pesant. Molotov semble faire un effort pour conserver son impassibilité proverbiale. Cette communication est-elle censée constituer une déclaration de guerre, demande-t-il enfin. Schulenburg hausse les épaules d'un geste d'impuissance. Alors le chef de la diplomatie soviétique donne libre cours à son indignation. Pour toute réponse, l'ambassadeur d'Allemagne exprime l'espoir que, conformément à la loi internationale, le personnel de l'ambassade soit autorisé à quitter le territoire soviétique. D'un ton glacial, Molotov réplique que les Allemands seront traités exactement comme les membres de la représentation soviétique à Berlin. Schulenburg et Hilger se lèvent, échangent une poignée de main avec Molotov et sortent. À l'ambassade soviétique de Berlin, le téléphone sonne à 3h du matin. Le conseiller Valentin Berezkov décroche. Une voix inconnue annonce que son Excellence, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, désire voir immédiatement l'ambassadeur Vladimir Dekhanozov. Arrivé à la Wilhelmstrasse, Berezkov et Dekhanozov montent le grand escalier puis s'engagent dans le couloir conduisant au bureau ministériel. À l'extrémité opposée de la vaste pièce, Ribbentrop, en uniforme gris-vert, est assis derrière une grande table. Près de la porte se tiennent immobiles plusieurs dignitaires nazis. Le chef de la diplomatie du Troisième Reich se lève, incline la tête et sans un mot tend la main. Puis d'un geste bref, il invite les deux diplomates soviétiques à s'asseoir à un guéridon. Berezkov note que Ribbentrop a le visage bouffi, le teint blême, les yeux injectés de sang. Dekhanozov est porteur du texte des dernières instructions de Moscou, mais Ribbentrop ne veut pas en entendre parler. Le gouvernement allemand, affirme-t-il, a appris que les soviétiques concentrent des troupes le long de la frontière allemande. Il remet à Dekhanozov un mémorandum énumérant en détail les griefs nazis. Le gouvernement soviétique, déclare-t-il ensuite, s'apprête à poignarder l'Allemagne au moment où elle est engagée dans un combat terrible contre les Anglo-Saxons. Ne pouvant tolérer pareille menace, le Führer ordonne les contre-mesures militaires qui s'imposent. Les Soviétiques se trouvent dans un complet état d'impréparation. Ni à l'état-major, ni dans le haut commandement, il n'est question de prendre les précautions les plus élémentaires. Aucun plan n'existe. Quant aux hommes qui composent l'entourage de Staline, ils sont tellement dominés par lui qu'ils sont, pour reprendre les propos de l'amiral Nikolaï Kouznetsov, incapables de saisir les leviers de commande. N'étant pas habitués à agir par eux-mêmes, ils savaient uniquement exécuter les volontés de Staline qui les écrasait de sa puissante personnalité. Tout le drame était là. L'autorité de Staline est telle que personne ne songe à la contester avant le début du mois de juin 1941. C'est seulement 15 jours avant le début de l'offensive nazie que quelques rares officiers commencent prudemment à manifester leur inquiétude. C'est déjà trop tard, d'autant que la plupart des généraux s'obstinent dans un optimisme béat que sous-tend une logique redoutable. Puisque Moscou ne nous ordonne pas de nous préparer à la guerre, c'est qu'elle n'aura pas lieu. À l'ultime minute, Staline tente d'éviter le conflit en interdisant d'ouvrir le feu sur les avions allemands, de faire mouvement vers la frontière, d'esquisser le moindre geste susceptible de provoquer une réaction allemande. Il s'accroche à cet espoir avec un tel entêtement qu'au matin du 22 juin, alors que l'invasion a déjà commencé, Moscou réitère l'ordre de ne pas riposter. Pour Staline, l'attaque nazie est une surprise totale. Évoquant son comportement dans la journée cruciale du 22 juin, Nikita Khrushchev décrit un homme effondré, convaincu que tout était fini. Pendant un laps de temps prolongé, il ne prend aucune part à la direction des opérations militaires, se ressaisissant seulement lorsque le Politburo le persuade que dans une crise aussi grave, il n'a pas le droit de se dérober. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, trois livres » préparée comme chaque semaine par Emmanuel. C'est Serge Reggiani qui nous accompagne en chanson durant cette émission Historama. Nous écoutons « Ma liberté », une chanson de 1967, écrite et composée par Georges Moustaki.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi, pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire. Un jour, trois livres, ce sera quatre aujourd'hui, à commencer par L'Ambition. Les trafiquants d'éternité, c'est le tome 1. C'est signé Amélie de Bourbon-Parme et c'est publié aux éditions Gallimard dans la collection Folio, comme d'ailleurs les trois autres ouvrages de cette chronique. À Rome, au cœur de la Renaissance italienne, Alessandro Farnese, jeune aristocrate provincial promis à une carrière ecclésiastique, met son ambition au service d'une seule religion, sa famille. Projeté dans les jeux du pouvoir entre Florence et Rome, soutenu par Laurent de Médicis, il compte sur l'influence de sa sœur, la sensuelle Giulia, maîtresse du pape Rodrigo Borgia, pour devenir cardinal. Usant de l'audace, de l'opportunisme et de l'élan amoureux, Alessandro s'impose au sein d'une papauté corrompue et licencieuse sans se compromettre. Il profite de l'extraordinaire effervescence humaniste, artistique et politique qui règne dans la péninsule italienne pour poser les fondations d'une aventure humaine et familiale qui le conduira au sommet de l'Église et de l'Europe. Il fut donc le pape Paul III et le seul homme d'Église fondateur d'une dynastie dont l'auteur descend. L'Ambition, Les trafiquants d'éternité, c'est le tome 1, c'est signé Amélie de Bourbon-Parme, c'est paru chez Gallimard dans la collection Folio. Mémoire d'une féministe intégrale, Madeleine Pelletier, toujours chez Gallimard dans la collection Folio. Voici les mémoires de la doctoresse Madeleine Pelletier, née en 1874 et décédée en 1939. Elle fut d'abord une féministe des plus radicales. Elle porta ce combat dans les partis de gauche, dans la franc-maçonnerie et partout où elle put dans le débat public. Première femme admise à passer le concours des asiles d'aliénés, elle empoigna les enjeux de l'affranchissement des femmes à la lumière de sa culture scientifique, de sa pratique de la médecine et de sa grille d'analyse matérialiste. Se sentant née trop tôt, elle batailla en première ligne, sans troupes, mais pas sans courage. Elle voulait une égalité absolue par la voie d'une virilisation des femmes que réprouvaient les féministes, trop timorées à son goût. Elle défendait la virginité militante comme moyen de résistance au patriarcat. Les antiféministes en firent une cible privilégiée. Elle paya par l'internement à l'asile son engagement concret pour la liberté de l'avortement. Ses mémoires sont accompagnées d'une iconographie et de manuscrits analysés par Christine Barthes, spécialiste de l'histoire des féministes. Mémoire d'une féministe intégrale, Madeleine Pelletier, c'est chez Gallimard dans la collection Folio. Le bal de la rue Blornay de Raphaël Confiant, toujours chez Gallimard dans la même collection Folio. Le héros de ce roman, ce sont les années folles. Au sortir de la Grande Guerre, la Biguine, une musique nouvelle venue des Antilles, conquiert le tout Paris. Elle prend ses quartiers au bal de la rue Blonnet, au cœur de Montparnasse. Là, des célébrités, Joséphine Baker, Fujita, Ernest Hemingway, Robert Denos, entre autres, croisent des anonymes, des ouvriers côtoient des intellectuels. Noirs, blancs, métis, femmes du monde ou de petites vertus se mêlent dans un joyeux chahut. Amour et amitié se font et se défont sur des rythmes endiablés. C'est là que se rencontrent Athénor, Louis Edmond, vétéran noir de la bataille des Dardanelles, Frédéric Clerville, jeune mulâtre, fils d'un brillant avocat de Fort-de-France, en rupture de ban avec sa famille, Élise, domestique d'anciens coloniaux, et tous les trois sont martiniquais à Paris. Le bal de la rue Blornay de Raphaël Confiant, c'est chez Folio, aux éditions Gallimard. Et pour terminer cette chronique, Le Nageur, de Pierre Assouline, toujours chez Folio, aux éditions Gallimard. Le Nageur retrace le destin exceptionnel d'Alfred Nakache, né à Constantine, tôt devenu champion de France et d'Europe. Avant d'être sacré recordman du monde, ce sportif de haut niveau fut sélectionné pour représenter la France aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, puis à ceux de Londres en 1948. Mais entre les deux, il connut l'épreuve suprême d'une vie dénoncée par un rival comme juif et comme résistant à la Gestapo toulousaine. Il fut déporté avec sa jeune femme, Paul, et leur petite Annie, lesquelles seront assassinées. D'Auschwitz à Buchenwald, en passant par la marche de la mort, il survécut grâce à une volonté et une constitution athlétique hors du commun. Le nageur est le récit d'une existence tendue vers un but, l'excellence et le dépassement de soi et surtout, en toutes circonstances, tenir, se tenir, résister, une leçon de vie. Le nageur de Pierre Assouline, c'est dans la collection Folio aux éditions Gallimard. Ainsi s'achève cette chronique et par là même cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée et nous nous séparons en chanson avec Serge Reggiani, un titre de 1968, « Les loups sont entrés dans Paris ».
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits, une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle. Regardez bien, Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmant Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle. Et nourrissait de 100 petits avec les enfants de passé.